France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, les carnets donnent la parole à une femme engagée. Sarah Barouk a eu une idée brillante. Demander aux entreprises d'être des refuges, leur demander de protéger leurs salariés en les autorisant, par exemple, à porter plainte contre un conjoint violent pendant le temps de travail ou en les incitant à verser leur salaire sur un compte à elles et pas sur un compte joint, histoire de garder une indépendance financière. La créatrice de l'association 125 et après est mon invitée dans quelques minutes. Avant cela, un coup de fil à une association qui cherche des bénévoles en Essonne. L'Essonne, c'est le département à l'honneur cette semaine puisque le jeu des 1000 euros est à Morsang-sur-Orge. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
L'accès à la connaissance à tous les âges. Coup de projecteur sur l'université du temps libre d'Essonne. Bonjour Jacques Huard.
Bonjour Dorothée Barba.
Vous êtes le président de l'université du temps libre, l'UTL, association qui est rattachée à l'université d'Évry-Paris-Saclay. Des conférences accessibles à tous et à toutes, sans diplôme. Je vois par exemple une conférence en décembre sur l'architecture espagnole de Gaudi à Barcelone, une en janvier sur l'oreille interne, une autre encore sur les tailleurs de pierre des cathédrales. Les thèmes sont très variés. Quel est le profil de votre public, dites-moi, surtout des retraités?
Oh oui, surtout à 90% pratiquement, nous sommes des seniors. La moyenne d'âge de nos adhérents cette année est pratiquement de 73 ans.
Des hommes et des femmes qui veulent apprendre encore?
Surtout des femmes. Il y a 70% de femmes parmi nos adhérents. Bon, c'est une spécificité, les femmes sont plus intéressées par la culture visiblement que les hommes.
Votre association compte 11 antennes qui sont réparties sur tout le département de l'Essonne, notamment à Évry-Courcouronnes, à Épinay-sur-Orge ou encore à Palaiseau. Et vous avez besoin de plus de bénévoles. C'est un enjeu important pour votre asso, le renouvellement des bénévoles?
Oui, parce que nos bénévoles sont encore plus âgés que nos adhérents. Oui, parce que on trouve des bénévoles pour un projet partiel qui n'engage pas sur la durée, vous voyez. Et c'est compliqué maintenant, actuellement, avec le bénévolat.
Et vous, Jacques, comment vous êtes-vous retrouvé embarqué dans cette aventure associative?
Ah bah écoutez, c'est relativement simple. J'étais scientifique et j'ai toujours eu une grande frustration par rapport à la culture. J'ai jamais pu tellement consacrer beaucoup de temps pendant mes études à la culture. Et j'ai plongé dedans, donc, au moment de la retraite.
Et vous étiez dans quelle branche scientifique?
L'aéronautique.
Et aujourd'hui, vous assistez à des conférences sur beaucoup, beaucoup de sujets variés?
Bah voilà, exactement. Je dis, bon, évidemment, je suis très engagé du côté des sciences, évidemment. J'ai créé l'an dernier un café des sciences, même, qui me tenait à cœur depuis plusieurs années. Donc voilà, oui, maintenant, je m'intéresse à Gaudi, comme vous venez de dire. Mmh. On avait une conférence sur l'alimentation, l'agriculture et le climat à Épinay-sur-Orge, qu'on peut regarder soit en direct, soit en replay dès le lendemain. On essaye de vulgariser, de trouver des conférenciers qui s'adaptent à nos publics. Et chacun sort satisfait, même s'il n'est pas scientifique. Il apprend toujours des choses et tout le monde généralement est très intéressé. On a un fort indice de satisfaction de retour de nos conférences.
Voilà, appel aux volontaires. L'université du temps libre d'Essonne a besoin de plus de bénévoles. C'est à Évry-Courcouronnes et dans tout le département 91. Merci beaucoup Jacques.
Ben merci Dorothée.
Et bonne journée.
Ça fut un plaisir.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
France Inter. Carnet de campagne.
Et si l'entreprise était un refuge pour les victimes de violences conjugales, en permettant à une salariée de porter plainte pendant les horaires de travail, par exemple, à l'abri de la surveillance du conjoint violent? C'est ce que propose aux entreprises le mouvement Safe Place, qu'on peut traduire par espace sécurisé. En ce 25 novembre, journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, je reçois celle qui a eu cette bonne idée. Bonjour Sarah Barouk.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes écrivaine, créatrice d'une association baptisée 125 et après. Votre mouvement Safe Place est un label pour distinguer les entreprises qui s'engagent contre les violences intrafamiliales. Vous avez été vous-même victime de violences il y a quelques années. Est-ce parce que le soutien de votre employeur vous a manqué à l'époque que vous avez lancé ce projet ?
C'est exactement ça. J'ai été salariée pendant des années. À un moment donné, j'ai listé tout ce qui m'avait manqué. Je me suis dit, en fait, il faut aider les entreprises à aider. Il y en a beaucoup qui sont pleines de bonne volonté, mais qui savent pas forcément comment, à quelle place elles doivent se situer, en fait.
Vous vous sentiez à l'abri sur votre lieu de travail ?
De ce que je vivais chez moi, oui. Et typiquement, on a une fausse idée de qui sont les victimes de violences conjugales. On s'imagine tout le temps des personnes qui ne travaillent pas, qui sont recluses chez elles, etc. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, il y en a, mais 62% des plaignantes sont salariées. Et donc, quand on isole de ce chiffre celles qui sont encore étudiantes et celles qui sont retraitées, en fait, 70 voire 75% des plaignantes sont dans l'entreprise où elles passent les deux tiers de leur temps et où, en général, elles ne sont pas sous la surveillance directe de la personne qui les maltraite. Donc, c'est un endroit idéal, quelque part, pour toucher des victimes à un moment où elles ont, comme je dis souvent, un temps de cerveau disponible. En fait, le contrôle coercitif, donc l'ensemble en fait des violences cumulées que l'on peut subir lorsqu'on subit des violences conjugales, ça implique un contrôle permanent. Ça implique d'accepter que chez soi, c'est l'absurdie. Et que quand on n'est pas chez soi, là, on a la possibilité d'être une personne relativement normale. Et donc un cerveau qui fonctionne relativement normalement. Ce qui n'est pas possible à la maison. Et moi, pourquoi est-ce que je me suis concentrée avec mon association sur l'entreprise ? Parce que la meilleure campagne de prévention de la terre, si c'est une affiche dans le hall d'un commissariat où les victimes ne vont pas, ça ne sert à rien. Si c'est un spot publicitaire qui passe à 20h quand vous êtes assise sur le canapé à côté de la personne qui vous maltraite et que ça débouche sur une dispute, et je vous parle
en connaissance de cause,
j'espère que tu fais pas partie de toutes ces connasses, etc. En fait, c'est parfois même contre-productif.
Vous avez listé 60 actions concrètes, Sarah Barouk, que les entreprises peuvent mettre en place pour obtenir votre label Safe Place. Et parmi elles, je le disais, autoriser les salariés à porter plainte sur le temps de travail. Quoi d'autre ?
Alors, effectivement, porter plainte sur le temps de travail, à l'association, en moyenne, aller porter plainte, ça peut prendre jusqu'à un an, une fois qu'on est décidé à le faire, tout simplement pour trouver le créneau où on va pas se faire griller. Mais il y a, par exemple, le fait de ne plus verser de salaire sur des conjoints. Il y a une énorme proportion de femmes qui travaillent et qui sont en couple, qui n'ont pas de compte personnel. Or, si vous voulez consulter un avocat, payer la caution pour un nouvel appartement, etc., et que votre salaire est automatiquement confisqué, vous ne pouvez pas. Donc en fait, l'idée, c'est d'aider les entreprises à savoir comment agir, mais tout en restant à leur place d'entreprise. Donc l'idée, c'est de trouver les failles sociétales où ni l'État, ni le reste de la société ne peut agir. Donc ça va être tout ce qui est en relation avec l'identité administrative et économique des personnes. Mais ça peut aussi être, par exemple, autorisé, comme la loi le permet, à des salariés de toucher l'épargne salariale en cas de dépôt de plainte pour violence conjugale. Ça, il y a beaucoup de DRH qui l'ignorent, par exemple. Et ça va être aussi tout ce qui va concerner les autorisations. Il faut savoir qu'une personne qui vit des violences conjugales, elle a l'impression d'être fliquée du matin au soir. Donc il y a plein de choses qu'elle ne s'autorise pas. Moi, si je vous dis, par exemple, vous avez le droit, si vous vivez des violences conjugales, d'aller faire des recherches pour un nouvel appartement sur votre ordinateur de travail, vous allez me dire, moi, je me sers de mon ordinateur normalement. Oui, parce que je pense que vous n'êtes pas victime de ce genre de choses. Alors qu'une personne qui est fliquée et qui culpabilise pour tout, il faut le dire qu'elle peut le faire. Il faut l'autoriser officiellement à utiliser son téléphone portable, son ordinateur, à d'autres fins que uniquement le travail.
Avoir du personnel qui soit formé à l'écoute également, à accueillir des témoignages de victimes de violences, à réagir avec des actions concrètes, ça fait partie de ce que vous préconisez ?
Une des premières actions que l'on préconise, c'est effectivement de former ce qu'on appelle une équipe référente. Ça va être effectivement les assistantes sociales, la médecine du travail, mais également peut-être de rajouter cette casquette au référent harcèlement ou à des personnes qui ont vécu ça dans l'entreprise et qui sont d'accord à partir d'un certain moment de recul pour endosser ce rôle-là et les former régulièrement. Entrer également dans l'entreprise, l'originalité de ce label, c'est qu'effectivement, il y a des actions concrètes, mais c'est aussi que, à partir du moment où une entreprise adhère, l'association rentre en son sein. Et donc, on est, c'est ce que je dis souvent, une troisième porte pour les collaboratrices et collaborateurs.
Combien d'entreprises aujourd'hui sont labellisées Safe Place ?
On atteint une trentaine et on a encore une trentaine en demande en l'espace de 4 mois, ce qui est énorme. Et pas des petites entreprises. Enfin, je veux dire, il y a Fnac Darty, Lactalis, plusieurs entreprises du groupe LVMH comme Dior Parfum, comme Céline, mais également des entreprises totalement industrielles, ce qui est assez surprenant au départ. Faire partie de la solution, ça veut dire faire partie de toute la solution.
Votre association 125 et après, c'est la suite d'un livre qui avait connu un gros succès en 2023, 125 et des milliers, dans lequel des personnalités racontaient le parcours de 125 femmes. Le titre est un hommage aux 125 victimes de féminicide en France chaque année, en moyenne. Et la suite, 125 et après, parce que cette association, c'est la suite de ce livre. Vous venez de lancer une collecte, Sarah Barouk, pour proposer des kits aux victimes de violences. En quoi consistent ces kits ?
Il faut savoir que 82% des victimes de violences conjugales sont des mamans, parce que la violence se déclare ou s'intensifie fortement à l'arrivée d'un enfant. Et que souvent, on porte plainte quand on n'a plus le choix, dans un scénario catastrophe, comme ce qui m'est arrivé, et ce qui est arrivé en fait à toutes les bénévoles de mon association. On a toutes connu ce moment où on est parti sans culotte, avec un enfant d'un côté et un ordinateur de l'autre pour moi. Et donc, on veut ne plus ajouter de trauma au trauma. Et donc, on essaye de confectionner 100 kits de première nécessité pour des mamans qui vivent ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, on demande au grand public de nous donner des couches, des serviettes hygiéniques, de quoi changer un enfant avec des vêtements, de quoi se changer soi-même, tout ce qui concerne l'hygiène, donc pour pouvoir se laver, pour pouvoir se brosser les dents. Bref, imaginez que vous partez sans rien. De quoi vous avez eu besoin pour les 3 prochains jours.
Celle que vous étiez il y a 10 ans, Sarah Barouk, qu'est-ce qu'elle aurait pu imaginer ce qui se passe aujourd'hui ?
Jamais. Et c'est aussi ce qui me donne de la force, parce que parfois, quand j'entre comme ça dans les entreprises, ça fait un peu bulldozer. Et ce que je dis toujours, c'est c'était pas le but de ma vie de devenir le symbole des vies affectives ratées. Il se trouve que c'est comme ça, soit j'en fais quelque chose, soit ça n'aura servi à rien. Et donc, je trouve ça assez réjouissant de voir que finalement, ce message porte et qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent d'elles-mêmes nous demander conseils, s'inscrire, suivre les formations. Et je trouve ça énorme, en fait, parce que derrière les entreprises, il y a des gens et c'est des centaines de milliers de personnes qu'on touche aujourd'hui.
Et puis, choisir ce créneau du monde de l'entreprise, c'est aussi une manière très efficace de lutter contre cette idée que ça ne concerne pas tout le monde, les violences familiales, que c'est une certaine catégorie de la population.
C'est exactement ça. Moi, c'est vrai qu'en général, ce sont des femmes, et c'est pas un problème de peau, en fait. C'est parce qu'elles sont des femmes. Et je trouve ça hyper important de pouvoir dire que oui, il y a des femmes de grandes entreprises, du luxe, du CAC 40, qui sont tout aussi concernées que des femmes qui ne travaillent pas, qui vivent dans des cités. En fait, ça n'a rien à voir. Les violences systémiques envers les femmes, elles sont partout. Il n'y a aucune limite de catégorie socio-professionnelle, de religion, de culture. Ça ne s'exprime pas toujours de la même manière, mais c'est un point commun. Donc je pense qu'il faut une réponse globale.
Un grand merci, Sarah Barouk, d'être passée dans le studio des carnets de campagne. Je rappelle le nom de votre association, 125 et après, et ce mouvement Safe Place qui labellise les entreprises en lutte contre les violences faites aux femmes. Bonne journée.
Merci à vous.